Raps, Radio Bip, 96.9 FM.
Première partie. D'où vient le rire ? Une enquête. D'où vient le rire ? Le rire dont nous parlons provient à coup sûr d'une différence. Si le rire fonctionne sur cette différence, que contient-elle ? Quels sont ses effets et peut-on parler d'efficacité ? Prenons une discussion. Deux personnes se lancent dans un sujet, qu'ils maîtrisent ou non. La discussion se laisse porter avec un certain plaisir visible des interlocuteurs. Mais ce plaisir n'est certainement pas le vecteur ou la condition d'apparition d'un rire. Rire, ce n'est pas sourire. Et dans le sourire, il y a une reconnaissance de l'autre. Une invitation est lancée. Le sourire tient de l'ouverture. Le rire, lui, est une différence. Bien sûr, nous pourrions être tentés de décrire physiquement d'où il vient. C'est un double mouvement, dans la gorge et dans le ventre, en bas. En bas pour le souffle, la gorge pour le son. C'est ainsi que cette différence se résout, comme une sorte d'appel d'air haletant. Mais le son est différent, un appel d'air venu d'en haut. La différence crée cet appel d'air. Oui, c'est certainement la différence de ce que l'on attend. Ce qui est dit, à un moment, ne correspond plus au fil de la discussion. On perd le but par un détour que pourtant seul, la discussion avait permis d'ébaucher. C'est-à-dire que ce n'est pas faux, mais ce n'était pas prévu. C'est de nouvelles voies évidentes et fracassantes qui s'ouvrent contre le bon sens de la discussion. Comme si le sujet lui-même venait pour nous dire qu'il ne se laisserait pas guider de la sorte dans une direction qui aurait été décidée d'un commun accord de manière tacite au moment où les protagonistes se rencontrent. Pour eux, c'est donc une surprise. À ce moment-là, un rire se fait entendre.
Une ambiance un peu gaie, on entend des bruits de verre, mais l'ambiance est assez intime. Un repas entre amis qui finit en bonne. D'où vient le rire ? Bah là, d'en bas, un peu à gauche.
Non, pas du tout. Non, beaucoup, beaucoup plus haut.
Ah, toi, tu parles de la gorge.
Non, beaucoup plus haut, même.
Vous vous sentez complètement. On ne peut pas dire comme ça précisément d'où ça vient.
Oh. Ah tiens, j'en ai une bonne. Un plombier polonais entre et crie. Ah, on a tué tous les juifs et les coiffeurs. Mais pourquoi les coiffeurs?
Bah, ça, pourquoi les coiffeurs? Non, mais pourquoi un plombier polonais?
Bah, les plombiers sont pas tous polonais, hein.
Bon. Oui, et les coiffeurs sont pas tous pédés.
Ouais, mais ils sont souvent italiens.
Oh, mais oh, tu sais.
Tu sais, ça se perd. Donc ça se spécialise, la coiffure.
C'est vrai, il n'est pas coiffeur qui veut.
Ouais, mais il n'est pas pédé qui veut.
C'est quoi cette histoire de coiffeur italien?
Bah souvent, les coiffeurs sont italiens, c'est tout. Mais ça se fait, c'est tout. C'est que la beauté s'apprend aujourd'hui au cours de longues études, et eux qui ont toujours coupé les cheveux, selon une culture de tradition, on peut dire presque orale, bah, alors l'idée d'école leur paraît saugrenue, alors ils vont pas.
Qu'est-ce que c'est cette histoire?
Moi je trouve que ça se tire.
C'est vraiment tiré par les cheveux.
C'est peut-être des histoires qui ont à voir avec des choses anciennes. Enfin, je ne sais pas. Il y a des gestes que l'on répète. Et c'est sûrement cette répétition qui nous traverse. J'ai le même sentiment quand je regarde une œuvre d'art, quand je ris. Enfin, quand je ris seul. Pas un rire de groupe, dans une détente qui est très différent. Ce n'est pas que ça ne vaut rien, mais il est simplement tourné vers le présent, entre nous. C'est autre chose. C'est là que l'on répète un truc, sûrement ancien. Je veux dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas seule, mais face à tous ceux qui ont eu ce rire. C'est un transport. On n'actualise pas, on s'éloigne. Mais je ne parle pas de toutes les choses que l'on répète, tout ça change évidemment. Les techniques, les gestes, les significations évoluent. Maintenant que l'on ne meurt plus en couche, on ne peut plus dire que le geste soit tout à fait le même. Bien sûr que cela arrive encore, parfois, mais le geste ne peut pas être tout à fait le même. Ah, tu es là, je ne savais pas.
Oui, j'avais un truc à prendre.
Ah,
c'est chiant, c'est pas bon, il a repoussé
son vélo. Ah ouais. Ah, ouais. Là, on l'entend aussi. Là.
On entend un peu, mais on entend surtout le frigo.
Bah, ça fait cuisine, non? Sur ce truc des rires, arriver à différencier les rires. Je sens que les pistes sont bonnes, mais il y a une chose que je n'arrive pas à dire. Car tu vois, je ne pense pas que ça passe par des grands gestes. Je n'arriverai à rien par là. C'est plus fin, je crois. J'étais en train de dire que les gestes ont changé. Par exemple, on ne meurt plus, au moins en tout cas au moment de l'accouchement. Évidemment, cela peut arriver, mais le fait de ne plus avoir peur de mourir change l'acte, le symbole, la manière dont on le vit. Mais je ne suis pas sûre que l'exemple soit bon. C'est quelque chose qui se passe seul. Il y a une question de solitude. Ce n'est pas que l'on a besoin des autres à ce moment-là, c'est plutôt que l'on arrive, qu'on se retrouve avec les autres.
Bonsoir, c'est Crax. C'est reparti pour une nouvelle saison. Et on rentre ce soir dans le vif du sujet, puisqu'on vient déjà d'entendre une première partie d'une pièce radiophonique que nous vous proposons ce soir, qui s'intitule En trois actes, et qui est effectivement en trois actes, et c'est une pièce de Benjamin Serror. Alors j'ai tout juste une minute pour vous présenter cet artiste que nous avons découvert cet été, alors qu'il posait candidature à Locus Sonus. Et on vous propose cette pièce en trois actes et on reparlera la semaine prochaine un peu plus précisément de Benjamin et de sa production qui tourne tout autour de la chanson. Il se pose de sacrées questions comme vous allez pouvoir le découvrir dans les deux parties qui restent pour en trois actes, c'est-à-dire deuxième partie l'acte violent ou la découverte et troisième partie la compréhension ou l'achat du vin. Vous pouvez d'ores et déjà trouver toute information sur notre site. Craps.info.st, rubrique émission.
Craps, Radio Bip, 96.9 FM.
Seconde partie, l'acte violent. Ou la découverte. Oui, puis j'ai reçu la lame. Oui, elle a pénétré entre deux côtes assez profondément. Moi, je ne m'y attendais pas. Bien sûr, ce soir-là, je l'avais cherchée. Je comprenais au moment de sentir cette lame pourquoi elle arrivait. Je trouvais ça normal. Mais j'étais surpris de la manière dont elle est rentrée. Je ne pensais pas qu'elle serait entre le chaud et le froid. C'est difficile de qualifier cette température. C'était chaud ou froid. Enfin. Et puis la matière rencontre de la matière. Et je pensais qu'on sentait un contact du dur ou du mou. Quelque chose de proche. Mais en fait, c'est penser sans entrevoir la vraie violence de ce coup. En fait, la lame déchire pour faire sa place. Alors qu'on imagine qu'elle fait sa place là où elle peut. Et ça, alors, je ne pensais pas qu'on pouvait passer entre deux côtes. Moi, je l'attendais dans le bas-ventre, le cou vers l'appendice. Il est venu beaucoup plus haut. Alors, c'est drôle d'imaginer ça. On imagine le cou de manière à ce qu'il ne nous fasse pas mal. Alors, je ne pourrais plus du tout penser comme ça à présent. C'est vraiment ce qui se déchire que l'on sent. Et ça, j'aurais vraiment pas pu l'imaginer avant. Oui, je comprends ce qu'il veut dire. On dirait que notre homme a eu besoin de ce coup pour penser l'autre. Ou que l'autre qu'il pensait était ce coup. En fait, c'est une chose simple. On pense l'autre dans une relation complexe. En même temps, une projection de soi et un inconnu. Mais il faut bien une base pour projeter cet inconnu. Alors on construit l'inconnu avec des éléments inconnus, des bribes. Cet homme avait déjà dû se battre. Et reçu quelques coups, mais sans sûrement jamais en souffrir. Il se battait en position dominante, ou il provoquait. Il a donc construit cet inconnu sur ce qui ne l'avait pas encore atteint. Mais il avait dû quand même avoir mal, hein, on sent cela. Ce n'est pas le portrait d'un homme qui avait peur. Ce serait trop simple de penser que c'est la projection de ce qui lui fait peur. C'est quelque chose qu'il connaît et qui lui paraît le plus étrange. On est là, on boit quelques verres et puis dans la course de la nuit, on prend les choses à cœur et on a envie de mêler le corps aux idées. C'est que le corps porte aussi ses idées. Et se battre est un moyen de résoudre la lutte. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Un moment où toute la pensée est dans le corps, tout pense. Et donc se battre, bouger son corps, dans la confrontation avec l'autre, c'est pas comme donner aussi au corps sa parole, prendre les actes, mais une pensée, un tout. Oui, enfin, c'est très clair. Et cette pensée est tournée vers l'autre. C'est-à-dire que c'est un moment où on est plein d'inventions, puisque c'est une pensée. On n'invente pas comment agir, mais on invente comment on est l'autre. Tout en inventant un autre, une autre manière d'agir, qui à ce moment n'est pas qu'une projection face à soi. C'est que parfois on s'ennuie de soi. Alors on est curieux de savoir comment on est perçu. Mais ce qui est drôle, c'est que notre homme, comme beaucoup de personnes l'espèrent, a rencontré l'autre un soir dans une boîte de nuit.
Ma vie, avec Oreste. Cette arme est mon fardeau. Je n'ai jamais tué personne avec, mais de toute ma vie, elle n'a jamais cessé de me renvoyer à l'autre. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai eu le choix. C'est un outil, et toute la journée, je tranche gorge, carotide, je tue des animaux, plutôt de gros animaux. Mais il suffit que l'outil soit une arme pour être responsable ou non d'une révolution. Ce n'est pas une menace. Je ne travaille pas en corporation. Ce n'est pas la corporation des bouchers qui s'adresse à vous. Je suis seul. Responsable, ma parole. Je regarde cette arme et je lui chante. Je te vois, tu me terrasses. Je te vois belle, prête à l'emploi, compagne maîtrisée, tu es
conscience. Le boucher s'avance au centre de la pièce, mais son pas est hésitant. On pourrait penser qu'il n'est pas très à l'aise. Ce n'est pas dans son habitude de s'avancer vers le centre d'une pièce. Le centre, ce n'est pas son genre. On les trouve plutôt à la périphérie, les bouchers. Ce n'est pas un boucher dans le sens d'un meurtrier, il n'a tué personne, ce boucher. Pourtant, son instrument de travail est une arme. Mais jamais, au cours de sa vie, il ne s'est servi de cette arme comme une arme. Il n'a tué personne, mais c'est un choix. Il connaît la valeur de ce coup qu'il peut donner avec cette arme. Il ne nous menace pas. C'est une bien étrange figure de la démocratie. Il tue chaque jour. Chaque jour, des bêtes meurent à son contact. Alors il connaît la valeur de ce coup. Chaque jour, il tranche gorge, carotide. En cas de soulèvement, il peut très vite prendre les armes. Il les a et il en connaît l'usage. Mais ce n'est pas une menace. Il connaît ce coup, sa valeur, il sait le tressaillement au contact de la lame. Il pourrait nous dire de ne pas avoir peur, qu'il sait ce qu'il fait. Il tue le plus souvent des chevaux ou des vaches. Dans le temps, il tuait des agneaux et il détestait tuer des agneaux. Il pensait que c'est trop petit. Mais pour les autres, il ne sait pas. Il n'est pas sûr qu'il déteste aussi tuer des agneaux parce que c'est trop petit. Il doute, mais dans le doute, il ne dit rien, il ne demande pas. Un cheval suspendu et dépecé laisse un peu béat. Mais ce n'est pas sa physionomie, mais ses muscles qui donnent un frisson, qui rappelle quelque chose, un écho. En tout cas pour notre boucher. Mais il n'est pas sûr que cet écho résonne chez ses collègues, les autres bouchers. Ils sont bouchers après tout, et ils ne doivent pas être choqués. Ils ont choisi. Et le doute est là, et le système tient par projection. Le jour où je rencontre Oreste, je ne savais pas à quel point cela aurait une incidence sur les années qui s'écoulèrent ensuite. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je ne savais pas que je me préparais à une errance longue de plusieurs années, loin de chez moi, loin de tout. Jamais on nous a permis de revenir ici, et jamais le temps ne m'a paru si long. Il faut dire qu'Oreste avait tué sa mère, et que ce n'est pas si simple. On ne vit pas très bien après cela. Car Oreste a tué sa mère. Et on ne tue pas sa mère. Pour cela, Oreste sera voué à l'errance, chassé de la cité. Il ne connaîtra aucun repos. Poursuivi par les furies, horribles furies, qu'Apollon Oracle arrivera à calmer, le temps d'une sieste, mais courte sieste. Mais Oreste a-t-il au moins le droit à une sieste? Il a tué sa mère. Et on ne tue pas sa mère. Mais pourtant ce crime s'explique, et il est raisonné et raisonnable. Mais on ne tue pas sa mère. Alors comment expliquer à ces horribles, horribles furies pourquoi on tue sa mère? Et dire que ce crime est raisonné et raisonnable? Peut-être en expliquant à Oreste qu'on ne tue pas sa mère, et que même si on le fait, ou qu'on a de bonnes raisons de le faire, on aurait pu faire autrement. Mais Oreste alors répond qu'il n'est pas lâche et qu'il n'aurait pas pu payer quelqu'un, par exemple, pour tuer sa mère. Mais si tu n'es pas lâche, Oreste, regarde ce crime en face. Tu as tué ta mère, et ce n'est pas simple. Mais ce n'était pas simple à faire, tu sais. Oui, nous le savons. Et les deux parties se regardent, et ce pendant des heures. Troisième partie, la compréhension ou l'achat du vin.
les gants.
Tiens, tu as des gants, toi, maintenant.
Oui, je les ai achetés tout à l'heure. J'étais au supermarché et sur le chemin, je me suis dit que j'aurais un peu froid en portant les sacs sur le chemin du retour.
Oui, c'est vrai, ça. Il fait froid en ce moment.
Oui. Alors, en entrant dans le magasin, je suis allé à l'étage des habits et j'ai acheté cette paire. Bon, ils sont pas super, hein, ils sont un peu moches.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est une bonne idée. C'est efficace, les gants. C'est une bonne idée.
J'ai découvert le vin, enfin, pas découvert le vin, j'ai eu mon premier rapport avec un caviste, c'est à Paris, ouais.
D'accord. Et parce que tu achètes du vin ?
J'achète du vin.
Et tu en gardes ?
Je collectionne pas, non, je collectionne pas, parce que j'ai pas les moyens, enfin, peut-être que je le ferai un jour, mais je suis pas, puis j'ai pas la possibilité pour conserver du vin, tout ça. Très concrètement, ça, j'achète du vin, en fait, quand il y a les jours de paye, en fait. Quelques jours, quand je suis payé. Surtout si j'ai la capacité d'acheter une chose, d'acheter, comme dit mon caviste, une belle chose. Parce qu'il parle pas de vin, il parle pas de bouteille, il parle de belles choses. Quand il me présente une bouteille, moi je ne dis jamais, ça c'est un bon vin, c'est un bon cépage, c'est un bel assemblage. Il me dit, c'est une belle chose. Donc c'est, oui, c'est, et c'est vrai, la relation est là, c'est que j'achète une belle chose. J'achète, alors c'est pas ornemental, c'est pas une chose qui va... mais c'est purement hédoniste. Récemment, je suis allé à Toulouse et j'ai ramené une très belle bouteille parce qu'il y avait des gens qui m'invitaient à ramener cette chose. C'est lié à un événement. J'ai ramené une bouteille de Bourgogne, premier cru, qui était excellente. Et voilà. Mais c'est. Ouais. Avec mon caviste, je sais pas, il y a cette relation aussi un peu parce qu'il me connaît un peu. Il sait que je suis pas du tout un amateur. Enfin. Quelqu'un qui connaît très bien les vins, il a son discours, il me dit oui là c'est tel cépage, tout comme ça. Moi c'est pas, ça me parle pas du tout. C'est très étrange d'ailleurs quand je vais acheter du vin d'ailleurs, il y a cette chose où j'invente des faux plats par exemple. Je suis tellement gêné pour demander un vin. En fait je dis voilà je suis invité par des amis, on va manger du sanglier parce qu'en fait j'ai envie d'un, en fait l'image d'un vin est très liée à un plat dans mon imaginaire. Enfin pour moi c'est très imagé par rapport à ça, et j'ai des envies parfois, je me dis j'ai envie d'avoir une bouteille qui soit, d'un vin qui soit assez lourd, assez chargé, mais j'ai pas envie d'avoir des vins que je connais comme un Côte de Bourg par exemple, un vin que j'ai déjà bu, j'ai envie de sortir, donc je vais inventer quelque chose, je veux dire, voilà, je suis invité chez des amis qui servent toujours du Côte de Bourg quand on mange du gibier, et j'aimerais bien avoir un vin pour aller avec ce gibier qui va un peu les perturber, les surprendre. Donc ce qui est assez drôle parce que lui il joue un peu cette chose un peu, je sais pas si c'est un point de vue commercial qui fait ça, mais il joue la vraie question, il est là, il se prend la tête, il est en train de se poser mille questions, il cherche, il prend des bouteilles, il me les amène, il demande ce que j'en pense et on arrive sur cette relation où c'est là où on parle vraiment du vin. C'est comme ça parce que je la mets dans un contexte qui pourrait très bien exister parce qu'il n'est pas hallucinant, mais c'est comme ça que j'arrive en tout cas à me déculpabiliser et en tout cas me mettre en dehors de ta type qui arriverait en disant oui moi j'aime le vin, je voudrais tel truc. C'est comme ça que j'arrive.
Lui il a déjà mangé du sanglier.
Oui, j'ai déjà eu ça, oui, parce que j'avais mangé dans un restaurant à Paris.
Lui le
caviste, oui. Mais non, mais j'explique pourquoi. Ouais, parce que j'avais mangé dans un restaurant une fois, cette anecdote me vient très bien, dans un restaurant à Paris, un restaurant corse, on avait mangé du sanglier en daube qui était vraiment très fort. On avait mangé ça avec un vin corse très lourd. Et sans jamais oser lui demander un vin corse lourd, j'essayais de l'amener vers ça parce que j'avais peur qu'il me pose des questions. Parce qu'en arrivant sur des vins aussi précis et assez, des vins assez rares, assez quand même peu communs. Donc vraiment, c'est d'amener voir qu'est-ce qu'il pourrait me proposer et aussi me surprendre. Parce qu'il arrive aussi à m'amener des choses que je ne connais pas dans les vins.
Et il t'avait proposé un vin corse ?
Non, pas du tout. Non, il m'est proposé un vin de Nîmes. Ouais, ouais. De Nîmes, je ne sais plus comment on dit, des côtes... ni moi, je sais plus.
Et tu l'as, si tu l'as pas mangé avec un sanglier,
Je sais plus comment je l'ai bu, oui, mais je l'associe pas à des plats parce que après chez moi je la bois, je sais pas, non, c'est pas du tout. Peut-être qu'effectivement j'aurais mangé un sanglier, peut-être que je l'aurais sorti à ce moment-là, mais l'occasion n'était pas. S'il joue un personnage, je sais pas, je pense qu'il attend, ce que je vais introduire dans la discussion. Il va jouer un personnage, il va jouer le caviste, il va jouer le personnage selon ce que je vais avancer comme propos. Il faut que je lui donne des précisions et des. Ou que je lui lance, c'est là où je m'amuse beaucoup avec ce caviste. Je sais pas s'il voit que je m'amuse avec lui, mais c'est que je lui lance un peu des défis. En fait, j'ai l'impression de lui lancer des défis et j'ai l'impression qu'il surjoue des fois ce défi. Comme je disais, cette question du code de bourg, j'aurais changé ce code de bourg, qu'est-ce que vous me proposez en changeant de région ? C'est passé, d'ailleurs il a fini sur un Côte du Rhône, sur un Saint-Joseph en fait. Où d'ailleurs j'ai été très déçu. Qui était vraiment qui était pas du tout surprenant, qui était comme un rasto quoi.
Tu lui en voulais ?
Hein ?
Tu
non,
lui en
voulais ? Non. Non.
Et pourquoi non, parce que. Il y avait quoi décevant ?
Parce que sa description correspondait pas. Il me parlait d'un vin puissant. D'un vin chargé en bouche qui et finalement non, il était vraiment comme un rasto, comme des Côtes du Rhône que je connais. Est-ce qu'il y croit vraiment quand il me vend ce vin-là ? Je suis persuadé que non.
Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment quand tu lui dis que tu vas manger un sanglier ?
C'est vrai. Mais j'y crois quand je suis là. Parce que je le fais quand même par une image par rapport au sanglier, qu'est-ce qui va correspondre ?
Donc il y croit lui aussi un peu ? Au sanglier ? Ça paraît sûr.
Il croit pas au sanglier, il croit en moi. Il croit à moi, mon plaisir.
Ouais, mais qu'est-ce qui va. Lui est pas dupe du sanglier et toi t'es pas dupe de lui non plus.
Ouais. Moi je suis pas dupe de lui, il est dupe de moi.
Ah, tu crois ?
Ouais. Enfin. Dupe de moi dans le sens, enfin, il est.
Ouais, tu disais qu'il croit pas au sanglier.
Bah, j'ai dit ça ?
Ouais.
Qui croyait pas au sanglier ?
Il croyait peut-être pas au sanglier. C'est peut-être possible qu'il croit pas au sanglier. Alors après, c'est
si, il y croit quand je dis ça.
Tu crois qu'il croit qu'une fois par mois, tu manges un sanglier ?
Je viens pas. Attends, je change de plat quand même. Je vais pas dire tous les mois je mange un sanglier parce que. Non. Non, il y a d'autres plats. Alors on parle de sanglier parce que c'était un. Pour un mais j'ai déjà demandé pour une bouillabaisse, pour manger du poisson, pour du barbecue, pour mais c'est aussi une façon j'arrive pas du tout à comprendre parce qu'il y a aussi toute une démarche que j'entreprends. On parlait de déception tout à l'heure aussi. C'est important aussi la déception parce que c'est une part aussi aussi grande que la joie. Il y a quand même ce moment où on ouvre la bouteille et on boit et finalement et comme je disais tout à l'heure j'essayais de donner un faux événement, c'est-à-dire je vais manger du sanglier, mais aussi j'apporte un événement, même s'il est fictif, mais j'apporte comme un événement. Et la déception, elle existe aussi quand, par exemple, je prends cette bouteille, je vais aller à une fête, et d'arriver dans un truc, on me dit, bah non, on la boira plus tard, machin, et qu'on arrive à la fin, que tout le monde s'en fout. Ça, c'est quelque chose de terrible, terrible. Et c'est une vraie déception. Même si après, elle est bonne ou pas bonne, mais je suis déjà dans un aspect déceptif. Tu vois, c'est important, hein, finalement, l'événement que j'occulte dans l'achat. Je le crée après, c'est plus tout le même événement que j'ai décrit, parce que je donne un faux événement, ça va être un repas avec du sanglier, et finalement je vais l'amener dans un repas où on va peut-être manger de la salade avec des amis, ou ça va être une fête, mais ça va arriver comme dans un autre événement, auquel j'attache de l'importance. C'est pas non plus détaché de tout événement. Il y a quelque chose que j'assume pas, et je sais pas pourquoi. Il faut qu'il prenne la bouche, complètement, et c'est peut-être là aussi où je suis vraiment très amateur, parce que quand je prends un vin, j'ai l'impression que le vin est bon. Finalement, quand il va prendre ma bouche, qui va être, ça va être très sensible dans ma bouche. Alors que ce qu'il appelle justement les vins tranquilles, non, pas les vins tranquilles, c'est autre chose. Les vins plutôt faciles, choses comme ça, qui sont aussi des vins agréables à boire. Et c'est une chose que j'ai du mal à croire, enfin à concevoir que ce soit un bon vin. Je les bois, hein, avec plaisir, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Mais ça m'appartient. C'est vraiment ça appartient complètement à mon manque de culture.
les gants. Ah tiens, tu as des gants toi maintenant.
Oui, je les ai achetés tout à l'heure. J'étais au supermarché, sur le chemin. Je me suis dit que j'aurais froid en portant les sacs sur le chemin du retour.
Ah oui, c'est vrai, ça, il fait froid en ce moment.
Oui. Alors en entrant dans le magasin, je suis montée à l'étage des habits. Et j'ai acheté cette paire. Oh, ils ne sont pas super. Ils sont un peu moches.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est une bonne idée. C'est efficace, les gants. Oui, c'est une bonne idée. Chanson sceptique sur la compréhension. Quand on a compris l'incompréhension, c'est pour les autres. Il est toujours trop tard quand on a tout en main pour agir au plus juste. Qui avait tout compris, et un autre qui n'avait compris rien de rien. Le sort de l'un ni de l'autre n'est enviable. Le sort de l'un ni de l'autre n'est enviable. Tape toujours faux. La compréhension tape toujours trop loin.
C'était Craps, rendez-vous la semaine prochaine. Plus d'informations sur notre site craps.info.st, rubrique émissions.